Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au moteur d'engagement avec Alexia. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, un jeu de connaissance de soi en intelligence collective. Retrouvons tout de suite Alexia. Bonjour Alexia.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Nous allons parler d'engagement et même, on va dire, de moteur d'engagement parce que tu as fait une, on peut dire, longue enquête sur les pratiques qui créent du lien en entreprise. Nous nous sommes rencontrés il y a à peu près 2 ans, je dirais.
Ben oui, écoute, je pense. C'est quand j'ai quitté ma précédente société, donc ça devait être ça.
Et ce que je trouve drôle, c'est que tu as écouté toutes les interviews vidéo de Moodstep.
Mais écoute, oui, j'en ai vu, je crois qu'il n'y en a pas loin de 150, hein, c'est bien ça.
Oui, oui, ça doit être ça. C'est incroyable.
Écoute, j'étais dans une démarche d'ouverture et ça m'a intéressée, voilà.
Donc on se retrouve 2 ans après que tu aies vraiment été faire ton enquête. Avant qu'on commence et qu'on se lance sur le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire quel a été ton parcours ?
Oui, alors avec plaisir. Donc moi j'ai 45 ans, je suis de profil ingénieur et puis ensuite HEC entrepreneur. J'ai commencé par du conseil en stratégie et puis assez rapidement j'ai basculé dans l'univers des startups puisque ça fait donc une quinzaine d'années que je suis entrepreneur. Ma précédente société était dans le domaine de la parentalité en entreprise et je l'ai revendue au groupe Babylou. Et puis quand j'ai quitté le groupe, j'ai souhaité repartir dans une aventure entrepreneuriale sur un sujet qui me tienne à cœur puisque je souhaite entreprendre pour un monde meilleur. Et donc, j'ai passé 1 an à effectivement rencontrer du monde pour trouver mon sujet. Voilà.
Tu peux nous raconter un peu cette enquête, comment tu t'y es pris, qui est-ce que tu as rencontré et comment t'en es venue à ce sujet-là ?
Alors, en fait, il y a eu une conjonction de plusieurs événements. D'une part, à titre personnel, j'ai été coachée en fait pendant 1 année puisque j'ai décidé de m'offrir 1 année de parenthèse pour vraiment trouver mon sujet. Donc, j'ai été coachée de façon assez intense par une femme assez exceptionnelle qui est psy aussi de formation et qui a fait ressortir le sujet de l'importance d'appartenir à quelque chose, le sentiment d'appartenir à un groupe d'humains comme étant quelque chose de fondamentalement très important pour moi. Depuis toute petite, hein, puisque même dans le bouquin, je cite une anecdote, mais quand j'étais petite, j'avais 8-9 ans, comme j'étais dans une famille où le lien n'était pas forcément très présent, on n'exprimait pas ses émotions et que j'avais besoin d'appartenir à quelque chose, et ben, écoute, je faisais des numéros au hasard au téléphone et je chantais des chansons de Noël aux gens pour leur faire plaisir. Donc pour te dire, voilà, pour te dire comme c'était important pour moi. Et en parallèle de ça, quand j'ai quitté le groupe qui nous avait racheté, je me suis dit, ben, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je me donne comme seul objectif cette année, tous les jours, de rencontrer quelqu'un qui m'inspire. Et je ne savais pas au début sur quel sujet, donc j'ai fait des rendez-vous d'ouverture. Donc j'ai revu que ce soit des anciens clients, des partenaires, des gens que j'avais croisés. Voilà. Ben, c'est à cette occasion que je t'ai contactée pour découvrir Moodstep. Et de fil en aiguille, comme le sujet de créer du lien est devenu aussi important pour moi à titre personnel, j'ai décidé d'orienter toutes mes questions et ma découverte de ces personnes qui m'inspiraient sur ce sujet. Et donc, assez rapidement, les rendez-vous se sont transformés en « Et toi, tu fais comment pour créer du lien au travail ?» Voilà. Voilà. Et comme c'est vrai que je venais d'un univers plus B2B, puisque mes clients dans mon ancienne société étaient plutôt des DRH, hein, dans le sujet de la parentalité, j'étais beaucoup sur la qualité de vie au travail. Je me suis dit, ben, je vais focaliser cette question de l'importance de créer du lien dans le monde du travail. Voilà, voilà l'histoire.
Alors, quel a été ton constat suite à ces interviews et ces rencontres sur où on en est sur ce domaine dans l'entreprise aujourd'hui ?
Alors, en fait, ce qui m'a surpris, c'est pas tant les techniques que m'ont présenté les personnes que j'ai rencontrées, parce que j'ai rencontré des patrons de CAC 40, j'ai rencontré des opérationnels, des managers, des entrepreneurs, des entreprises libérées, des artistes, donc une grande variété de personnes. Et effectivement, j'ai écouté leurs techniques, donc leur rituel et leur routine. Mais c'est pas tant ça qui m'a surpris, c'est plutôt l'aspect universel de la quête de liens dans le monde professionnel. Alors, j'ai découvert par la suite que c'est une quête universelle dans l'absolu, puisqu'on a tous besoin de faire partie de quelque chose et d'avoir ce sentiment d'appartenance. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'au travail, j'avais l'impression, moi, d'être un peu toute seule à être dans cette quête de ce que notre acquéreur appelait la fraîcheur au bureau, quoi. Voilà, c'est le sentiment vraiment d'appartenance. Et puis, être soi-même aussi, stopper cette rupture qu'il y a entre notre personnage professionnel et notre identité réelle. Et en fait, ce qui m'a surprise, c'est que je n'ai pas fait un rendez-vous. J'ai rencontré 150 personnes et j'en ai sondé 120 par des études sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait 250, 270. Et il n'y a pas une personne qui m'a dit « Non, je ne vois pas de quoi tu parles, ce n'est pas un sujet ». Voilà, et ça m'a surpris parce qu'en fait on n'en parle pas vraiment, ou alors quand on en parle c'est plutôt pour caricaturer le côté un peu bisounours du bonheur au travail. Donc voilà, ce qui m'a surpris, c'est cette attente universelle, que ce soit des dirigeants qui m'ont exprimé leur rupture entre leur identité et leur rôle professionnel en disant mais c'est vraiment dur quoi, je suis en contradiction totale, mais je n'ai pas le choix. Donc ça m'a vraiment surpris. Et puis, ce qui m'a surpris, c'est que finalement, quand on regarde les rituels ou les routines des personnes qui sont un peu les champions pour créer du lien, ce qui m'a surpris, c'est que c'est beaucoup de petites choses qui sont simples, hein, qui font le sel de la vie et qu'on a un peu oublié parce qu'on est rivé sur nos objectifs court terme. Voilà, et puis, la crise est passée par là. Donc, c'est finalement beaucoup de bon sens oublié, mais qui touche vraiment toute catégorie professionnelle.
C'est étonnant, parce que tu parles de la quête universelle de lien, mais en même temps, tu parles de la rupture entre la vie personnelle et professionnelle. Pour moi, c'est deux sujets différents, non ? Pourquoi tu les lis ensemble ?
Alors, je les lis ensemble parce qu'en fait, on a tous ce besoin, qui est parfois, souvent même, inconscient. C'est rare que des personnes... exprime le besoin de se sentir connecté aux autres. Hein. Je pense qu'il n'y a que peut-être les personnes qui y ont réfléchi ou voilà, on va plutôt exprimer notre envie d'optimisme, notre envie du goût de l'action, notre envie ou alors de dire ce format me convient pas. Voilà, mais aller exprimer le besoin qui fait partie des fondamentaux de la pyramide de Maslow, hein, de se dire j'ai vraiment besoin de ce sentiment d'appartenance. Je trouve que c'est assez rare. Donc moi, ce qui m'a surprise, c'est qu'en mettant le doigt dessus, en fait, tout le monde est complètement d'accord. Et là où je le relis, c'est que comme c'est assez inconscient, que c'est pas forcément verbalisé, sauf par ceux qui en ont conscience, du coup, vont parfois changer d'ailleurs de cadre professionnel. Mais du coup, quand on arrive au travail, on met son costume de performeur, on rentre dans le rôle qui nous est demandé. Et on en oublie ce fondamental, on en oublie cette part de nous-mêmes qui n'est pas forcément d'accord avec la façon dont ça se passe, mais qui n'arrive pas forcément à le verbaliser. Voilà, donc on rentre dans un rôle qui est le rôle qui est demandé aujourd'hui en entreprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que beaucoup m'ont dit aussi, c'est « on est d'accord, c'est super important, effectivement, maintenant que tu le dis. On est d'accord, j'arrive pas à le faire au travail. » Et en fait, la question que m'ont posé beaucoup de personnes, et c'est ça qui a donné naissance au livre Moteur d'engagement, c'est comment on fait ? Voilà, c'est oui, je suis en contradiction, mais je fais comment ? Voilà. Et du coup, le fait de recenser des actions qui sont assez simples et qui, cumulées un peu tous les jours, saupoudrées pour changer nos routines de travail, nos rituels du matin, nos rituels quand on démarre une réunion, nos rituels quand on rencontre une nouvelle personne, changer des petites choses, on n'est pas en train de révolutionner et de se dire faut changer, révolutionner mon lieu de travail. Non, c'est pas ça, c'est que finalement on peut tous, c'est à portée de tout le monde, dans le cadre du travail, saupoudrer des petites actions qui vont faire que finalement on va arrêter d'être en contradiction, on va réussir à créer ce lien et se dire oui, en fait c'était ça qui manquait.
Donc avant de passer sur le comment, tu parles de quête universelle de lien, mais en même temps quand tu dis comment améliorer le lien, c'est en soutien d'autres quêtes. C'est le lien pour autre chose ou c'est le lien...
Alors là, je te dirais que moi, je ne suis pas sociologue ou psy, j'aurais du mal à répondre à ta question. Ce que j'ai compris en digérant à peu près 80 bouquins sur le sujet, c'est que la quête de lien est la base, le socle sans lequel le reste est compliqué. C'est-à-dire être créatif en équipe, être optimiste au bureau, faire preuve de générosité, d'entraide, de confiance quand on est dans une équipe où on n'a pas le minimum requis qui est un peu de lien. C'est-à-dire où on est capable d'avoir ou un souvenir ensemble, où on est capable de partager un point commun. On sait qu'on a une valeur en commun. Ce n'est pas juste le fait de travailler dans la même société, ce n'est pas ça qui crée du lien. Ce qui crée du lien, c'est une somme de rencontres entre deux personnes. S'il n'y a pas eu cette rencontre, en fait, tout le reste est super compliqué. S'il n'y a pas eu cet échange d'humanité, où on se reconnaît en tant qu'individu dans l'autre, eh bien, tout le reste est compliqué. Donc, on a beau se battre pour mettre de l'optimisme, pour mettre de l'entraide, pour mettre de la sincérité, si finalement, il n'y a pas la base, eh bien, c'est plus difficile. Après, là où je sais moins répondre à ta question, c'est comment ça s'exprime. Est-ce que, effectivement, ça s'exprime plus par « je ne suis pas bien dans mon travail », les gens râlent, etc. Mais c'est plus que la quête de chaleur humaine, au sens premier du terme, c'est la base avant de parler du reste. Voilà. Et c'est pour ça que quand on parvient à créer du lien, eh bien, ça optimise la productivité, la créativité, la responsabilité. Ça crée du lien, ça a même un impact sur le burn-out, ça limite le risque de burn-out puisque ça lutte contre la solitude au travail. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un axe qui est un peu différent, je te l'accorde, des tendances actuelles qui sont plus... Sur certains leviers qui en découlent, on va plus parler d'optimisme, de bonheur ou de sens de l'action ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai voulu remonter un cran au-dessus, voilà, sur le socle.
D'ailleurs, donc, tu as identifié 12 leviers, c'est ça ?
Oui, alors, en fait, comme je suis ingénieure de formation, au fur et à mesure des rendez-vous que j'ai fait avec ces gens passionnants qui m'ont livré leur bonne pratique. Je classais mes idées, je classais mes arguments, je me dis mais comment ça, je pourrais aller plus loin, etc., etc. Et donc j'ai identifié 12 leviers qui sont à la source pour ensuite parvenir à créer du lien au travail. Alors, je dirais, ces 12 leviers, ils ne sont pas étanches. Hein. Il est certain que tu as un levier qui est sur la générosité, l'entraide, un autre levier qui est sur la bienveillance, la gentillesse, et un autre, par exemple, sur la gratitude. Bon, ben, ces trois leviers ne sont pas complètement étanches. Mais il y en a qui sont un peu plus étanches, comme le fait d'être moteur dans sa quête de sens et de liberté au travail, qui est un vecteur de lien, parce que quand on partage sur le sens de sa présence au travail avec les autres, ça génère du lien, parce qu'on va générer des discussions sur des éléments qui sont importants pour soi. Quand on peut exprimer sa liberté au travail de faire certaines choses différemment, c'est également vecteur de sens et donc de lien. Et il y a d'autres leviers qui sont totalement différents, comme la culture de l'erreur et de l'échec. Accepter l'erreur, impulser la culture de l'innovation, de l'expérimentation, de l'action, tester en disant on verra bien, ça crée du lien. Parce que tout de suite, tout le monde est dans l'humilité. On n'est pas en train de se dire qu'il faut réussir à tout prix. On n'est pas en train de se dire qu'il faut planquer les erreurs. Au contraire, ça ouvre vers l'acceptation qu'on va tous dans une aventure. On ne sait pas exactement où on va. Donc, c'est pour ça aussi que les startups génèrent souvent beaucoup de liens dans leurs équipes parce qu'il y a une vraie culture de l'action et de l'erreur. Voilà. Tu as d'autres leviers sur la connaissance de soi, la reconnaissance. Et puis les joies simples, c'est très important, les joies simples, tu vois, c'est partager une petite blague carambar de temps en temps ou regarder une vidéo qui est un peu amusante. Même en rendez-vous clientèle, hein, moi ça m'arrive de tester des petites choses et en fait, comme ce sont des fondamentaux qui nous touchent tous, voilà, j'ai vraiment voulu revenir à l'ensemble des fondamentaux qui font du bien aux êtres humains, eh bien, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Voilà. Tout le monde est en quête d'optimisme, d'émotion, de culture de l'action, de sens, tout le monde, tu vois. Voilà. Donc, j'ai voulu repartir de ces fondamentaux qui permettent ensuite de relier les individus. Parce que pour relier les individus, en fait, il faut créer des occasions, et c'est ça, hein, toutes les actions, ce sont des petites occasions qui permettent de se connaître, de trouver un point commun, d'échanger une émotion, et c'est ça. Dès qu'on échange une émotion, le lien se crée, et après, on va pouvoir aller bosser, mais ce sont des petites actions qui prennent 90 secondes dans la journée, hein, tu vois, c'est vraiment des petites choses.
Alors, j'aimerais bien voir comment ton message est reçu. Et après, on va aller vraiment dans des choses beaucoup plus concrètes. Mais comment ton message est retenu ? Parce que quand on voit les leviers se connaître et connaître l'autre, connaissance et respect, optimisme, joie simple et culture du jeu, ah, super culture du jeu, ouverture, humilité, gratitude, générosité, bienveillance. Tu parlais tout à l'heure de la vision bisounours qu'on peut avoir de certaines personnes qui travaillent sur ces sujets. Est-ce que tu as affaire à ça et en quoi c'est bisounours ou ça ne l'est pas, quoi ?
Eh bien, alors justement, j'ai voulu complètement casser ça en étant très pragmatique et en demandant, j'ai notamment dans le bouquin 20 témoignages de personnalités où c'est plus des portraits où ils expriment comment est-ce qu'ils ils incluent dans leur quotidien professionnel des actions de ce type-là. Et tu vois, quand tu as le DRH Monde de L'Oréal, le DRH de KPMG, un partenaire d'EY ou une RH de Dior Couture, tu vois, des personnes qui ont quand même un profil professionnel exemplaire, remarquable et on ne peut plus business et non bisounours. Et quand je les ai interviewés l'un sur... l'importance, quand si tu veux, j'ai des témoignages de DRH de L'Oréal qui me dit que pour travailler avec lui, il faut que ton ego ne t'empêche pas de passer entre le bas de la porte et le dessus de la moquette. Bon, ben, tu vois, ou quand la DRH de KPMG me dit que le lien c'est tout, c'est ça qui fait que quand ça va pas, tu trouves une solution, que quand tu as un doute, tu as quelqu'un à qui parler et qui ensuite partage ses routines du quotidien. J'ai voulu justement, en faisant parler ces personnalités et en faisant parler les 250 personnes qui ont témoigné sur des choses très concrètes, en disant bah, « moi, je démarre ma réunion en faisant ça. On fait le tour de table des bonnes nouvelles de la semaine. Et je suis consultant dans un cabinet, dans une société d'informatique. » Ou des sociétés qui sont « Great Place to Work », qui disent bah, « nous, on est la société du relationnel. » Et avec nos clients, on a créé... telle ou telle action. Donc, j'ai voulu vraiment faire parler les vraies personnes qui sont dans le vrai monde professionnel pour justement casser ce côté un peu juste gentillet qui aurait pu. Et donc, personne d'ailleurs m'a justement. Ce qui ressort pour l'instant, c'est ce qui plaît, c'est que justement, c'est pas juste des belles idées, tu vois, c'est très très pragmatique. Et puis, il y a également 80 études qui sont mentionnées, donc on parle de performance, on parle de responsabilité, on parle, tu vois par exemple, dans le secteur des assurances, il y a des expérimentations qui ont été faites, donc les assurances, on ne peut plus corporate, où il y a en fait des communautés de personnes qui se connaissent, donc ils ont créé un lien, et au lieu de faire appel à une compagnie d'assurance, ils s'auto-assurent entre eux. Et en fait, on s'est rendu compte que quand tu payes par exemple 200 euros de prime à ton assurance, ben, y a à peu près 100 euros dans ces 200 euros qui sont nécessaires pour couvrir les frais un peu d'arnaque aux assurances, parce que comme on ne connaît pas l'assureur, ben, y a plein de gens qui arnaquent l'assurance en faisant des fausses déclarations. Et ces expérimentations dans des communautés des gens qui se connaissent et qui ont donc un lien, eh bien, au lieu de payer 200 euros de cotisation, ils ne payent plus que 100 euros de cotisation entre eux parce qu'ils s'auto-assurent, parce que comme ils se connaissent, eh ben, ils ne se trompent pas entre eux. C'est-à-dire que créer du lien, tu vois, est un vecteur aussi de responsabilité. Ils se sentent plus responsables et il y a beaucoup moins de d'arnaque aux assurances, entre guillemets. Tu vois, donc c'est des exemples, voilà, c'est en passant par des exemples très business que j'ai souhaité justement aller complètement au-delà d'un éventuel discours un petit peu gentillet.
Oui, mais à ce moment-là aussi, est-ce que le risque, c'est pas d'avoir un chapelet de trucs et astuces, en fait ?
Et c'est quoi ? C'est quoi le problème ? C'est un chapelet ? Non, alors, en fait, c'est pas un chapelet de trucs et astuces. Il y a des trucs et astuces, mais par exemple, si tu dis « dire bonjour », est-ce que dire bonjour, c'est on pourrait dire c'est bisounours, c'est trucs et astuces. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui connaît le prénom de ses 400 salariés et qui leur dit « bonjour Paul, bonjour Sophie », tous les matins, ou peut-être pas tous les matins, mais en tout cas quand ils les croisent, eh bien c'est là qu'un éventuel, truc et astuce qui peut paraître un peu simpliste, voire même bateau, devient en fait hyper puissant.
Eh bien, je ne suis pas sûre de ça. Alors, je suis désolée, je viens en contradictrice. Justement, sur ce sujet du bonjour, il se trouve que j'ai croisé donc, un PDG je ne savais pas que c'était le PDG de la société où j'intervenais, qui m'a serré la main et dit bonjour avec beaucoup d'assurance. Et bah pourtant, je me suis dit, tiens, ça c'est un truc et astuce. C'est-à-dire qu'il dit bonjour à tout le monde, mais il ne sait pas qui je suis. Je ne me sens pas reliée à lui, en fait. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas de pouvoir de dire bonjour à tout le monde, mais si ça rentre aussi dans notre manière de fonctionner, non ? C'est-à-dire qu'il faut vraiment choisir les méthodes ou les façons de faire qui nous correspondent. Sinon, ça devient un truc astuce pour moi.
Alors, pour moi, il y a deux sujets dans ta question. Le premier point, c'est la sincérité des actions qui sont menées, hein, parce que l'idée n'est pas d'avoir... une méthode qui soit un levier manipulatoire. Hein. Il y a une acheteuse qui me dit ah oui, quand j'ai envie de négocier un truc, j'amène une plaque de chocolat. Le but n'est surtout pas effectivement d'aller dans ce domaine-là. Donc ce qui est important, c'est la sincérité. Une fois qu'on est convaincu, c'est la sincérité de la démarche, l'humilité qu'on met dans cette démarche. Et ce n'est pas juste de dire bonjour, mais c'est de s'intéresser aux personnes. Donc c'est là où effectivement tu transformes. Une petite astuce ou voire même une règle de politesse qui est de dire bonjour en un vrai levier de découverte de l'autre. C'est bonjour Johanna, comment ça va, voilà, qui êtes-vous, voilà. Et le deuxième point, c'est effectivement parmi cette quantité, puisqu'il y a quand même plus de 365 bonnes pratiques, ce qui est important, c'est de choisir les siennes. Parce que parfois aussi, on est un peu timide et on n'ose pas se dire « Moi, la première, j'ai découvert des actions que je fais maintenant et que je n'osais pas faire avant parce que je pensais que ce n'était pas bien vu. » Et en fait, maintenant que j'ai compris que tout le monde en meurt d'envie, je me libère. Et c'est vrai que d'utiliser un peu l'humour, d'être totalement naturel, eh bien maintenant, je m'autorise de plus en plus à le faire, alors qu'avant, je pensais que les personnes en face de moi allaient me juger. Donc, je trouve que la force de tous ces témoignages et de cette liste d'actions, c'est que ça peut libérer les personnes quand tu sais que finalement, tout le monde n'attend que ça. Premier point. Et deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut tester certaines actions, voir ce qui nous convient plus ou moins, et surtout les tester avec nos équipes. Parce qu'il y a des actions qui sont hyper impliquantes, par exemple. Une société a mis en place une petite clochette, un petit gong en réunion que l'on active quand on a l'impression que l'ego est en train de prendre le dessus sur les réunions et sur son objectif principal. Bon, ça, tu ne vas pas le mettre en place partout. Certaines sociétés font venir des chiens ou des chats parce que le chat ronronne, le chat est un antidépresseur et puis vient faire des câlins et puis tout le monde s'en occupe, etc. Tu as des sociétés qui ont mis en place des actions autour de la végétalisation, se rapprocher de la nature, mettre les mains dans la terre. Faire des plantations. Donc, il y a des actions, des sociétés qui ont mis en place une monnaie locale avec leurs voisins, leurs prestataires, leurs partenaires. Donc, il y a aussi des actions qui sont hyper structurantes. Et que ce soit des petites actions comme ramener une spécialité locale de la ville où tu as dû voyager pour ton voyage d'affaires alors que tes équipes n'ont pas réussi à y aller, prendre le temps de temps en temps de faire un trajet en voiture parce que quand on est côte à côte, on discute plus longtemps, surtout si on va à Port-Louis en voiture, plutôt que de prendre, tu vois, chacun son transport. Donc, il y a des actions qui nous conviennent plus ou moins. Les actions autour des joies simples aussi, il y a des cultures d'entreprise qui ont plutôt la culture de la discrétion. Et c'est vrai qu'aller partager une vidéo rigolote ou faire un quart d'heure de félicitations pour les petites bonnes nouvelles opérationnelles de la semaine, il y a des entreprises où ça ne se fait pas. Donc, c'est à chacun de tester, d'expérimenter, de se lâcher un petit peu plus, voilà, donner un petit peu plus de place à ces petites choses du quotidien, et puis de réfléchir en équipe sur qu'est-ce qu'on a envie de faire tous ensemble, parce qu'il y a aussi beaucoup d'actions en équipe. Par exemple, avoir un livre d'or des bons moments pour s'en souvenir et de temps en temps les feuilleter. Alors, ce livre d'or, ça peut être un livre, mais ça peut être un pot avec des petits papiers où à chaque bonne nouvelle, on les met et puis on les tire au sort de temps en temps pour s'en souvenir tous ensemble. Ou ça peut être un mur de bravo où quand on a envie, on écrit un petit mot pour un collègue ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi des actions en équipe. Et là, c'est plus juste des petites trucs et astuces. C'est vraiment des méthodes pour mieux travailler ensemble.
Qui est moteur de ces actions dans l'entreprise ?
Alors, je pense que tout un chacun peut être moteur déjà pour soi. J'ai vu des personnes qui incarnent naturellement une grande partie de ces actions et qui ne sont pas managers, tu vois. Donc tout un chacun...
On prend un risque quand même quand on vient avec une idée. Par exemple, tu as dit le mur des bravos, c'est ça ? Voilà, je travaille dans une entreprise. On prend un risque de l'adhésion ou non-adhésion.
Alors moi, plutôt que de proposer... En fait, il y a plusieurs actions. Il y a des actions qui sont individuelles, que tout le monde peut piocher, dans lesquelles tout le monde peut piocher et l'appliquer. Et on peut décider soi-même de demain aller prendre son café à l'étage du dessus pour aller voir des nouvelles têtes, voire même aller au pipi room de où on va pas d'habitude pour croiser des personnes dans le couloir ou tu vois ou changer de chemin façon Ikea pour aller rejoindre ton bureau. Enfin bon. Donc il y a plein d'actions qu'on peut faire soi-même. Et en ce qui concerne les actions qui ont un impact sur les autres, que ce soit afficher quelque chose, aller faire une réunion promenade parce qu'on réfléchit mieux en marchant et qu'on est plus connecté aux autres, tout ça effectivement ça se discute, ça s'impose pas, voire même on peut pas dire tiens si on faisait un mur de bravo, c'est-à-dire moi je pense qu'on va plutôt alors à la fin du bouquin je propose de réfléchir au positionnement que l'on a à l'importance des 12 leviers et puis peut-être d'en choisir un ou deux. Peut-être des leviers où on est déjà assez bon dans la culture de l'entreprise, que ce soit la culture de l'action ou l'optimisme ou quoi que ce soit, et voir des actions qui vont renforcer, aller plus loin dans ce domaine-là. Et puis, pourquoi pas choisir un levier où on est un peu moins bon et tous ensemble prendre les actions du bouquin et décider tous ensemble ce dont on a envie. Voilà, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une envie, qu'il y ait pas, que ce ne soit pas une contrainte, que ce ne soit pas un KPI, tu vois, ou des objectifs ou des process corporate. C'est vraiment à chaque équipe de choisir selon son style et la culture d'entreprise ce qu'ils ont envie tous ensemble de mettre en place.
Donc aujourd'hui, les bénéfices de mettre en place ces différentes pratiques, quels sont-ils ?
Alors, en fait, créer du lien, ça a un impact. Comme je te disais tout à l'heure, c'est la base pour que le reste en découle. Donc ça va générer plus de discussions, plus de créativité, etc. Donc après, on se raccroche à toutes les études qui ont été faites sur la qualité de vie au travail, le bonheur au travail. Donc concrètement, il y a des études qui ont été faites par Google qui démontrent que c'est le premier levier du travail en équipe. Tu as également des études qui ont été faites auprès des enfants et des étudiants qui démontrent que c'est le plein épanouissement de l'intelligence humaine. C'est quand même fort. Donc, ils ont remarqué que dans les écoles où il y avait des programmes spécifiques sur la bienveillance et uniquement cette différence-là, les résultats des enfants étaient bien meilleurs. Donc, il y a un impact, pour faire simple, sur la productivité, sur la créativité, la responsabilité. Ça permet de lutter contre la solitude et le burn-out. Et il y a beaucoup de choses aussi autour de la sécurité. Tu vois, par exemple, les accidents du travail ou le fait d'avouer une erreur. Et ben, en fait, quand tu crées du lien et que tu connais les personnes avec qui tu travailles, pas juste parce que c'est ton voisin de bureau, mais parce que tu as échangé un petit moment d'humanité, et ben, tu vas anticiper, tu vas mieux lui donner l'information. En fait, l'idée, c'est que chacun ait conscience, grâce à ça, de l'impact de ce qu'il fait sur les autres. Donc ça va permettre, grâce à ça, d'éviter le travail en silo et de favoriser et d'éviter la. Ça va booster, surtout booster le travail en équipe. Mais dans les entreprises, c'est surtout de lutter contre le travail en silo, et de favoriser l'échange d'informations, de favoriser la créativité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en fait un double effet vertueux. Voilà, donc j'ai même fait un joli schéma. C'est qu'en fait, quand tu crées du lien, tu génères donc par tout ça, tu vas générer de l'engagement, hein, et donc de la productivité, de la performance, et de la créativité, etc. Mais une fois que les personnes sont engagées, ça les fidélise également. Donc créer du lien, ça fidélise également les personnes, parce que finalement, le premier levier pour rester dans une entreprise, c'est quand même les relations que tu as avec les autres. Et du coup, le fait de voir que tout ton écosystème professionnel est plus fidèle, eh ben, ça va participer encore plus à booster les liens dans la durée et à booster l'engagement. Donc, il y a vraiment une espèce de spirale vertueuse grâce à la fidélité que génère le fait de créer du lien. Voilà.
Donc, c'est quand même... Il n'y a pas de petite notice comme sur les médicaments où ça dit « effet indésirable ». Il n'y a pas d'effet indésirable.
Alors, si, je pense que l'effet indésirable, c'est que si tu as envie de partir dans ces sujets-là, de lancer des actions et que tu es dans un écosystème qui ne le permet pas, alors là, ça devient plus compliqué, je pense.
C'est drôle parce qu'hier, j'étais en train de classer des dossiers et notamment, je suis revenue sur des retours clients que j'ai reçus il y a un an et demi. Et je vois bien, puisque moi, je fais un jeu qui met en lien les gens et en tout cas qui leur permet de s'ouvrir, de mieux comprendre l'autre, d'utiliser l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Et je vois bien que dans certains retours, alors bien sûr, j'ai beaucoup de retours extrêmement positifs, personne n'en doute, mais sur les retours plus frileux, il y a ça là, cette difficulté qu'on a à poser le masque, c'est-à-dire qu'on a une personnalité au travail, une personnalité à la maison, et il y a encore, j'ai l'impression, des freins importants.
Oui. Alors, il y a des freins, ça dépend des entreprises. Hein. Il y a des sociétés qui ont fait des choses hyper poussées sur le sujet, mais il y a des freins. Par contre, il y a aussi une gradation des actions. Hein. C'est vrai que j'ai rencontré une femme qui m'a parlé d'une expérimentation au Canada où ils ont créé une poubelle à soucis. Et donc, quand tu arrives au bureau, tu inscris ton souci, tu déchires le souci, tu le mets dans la poubelle. Ça, tu ne peux pas le faire partout. Bon. Donc, c'est pour ça que dans le bouquin, j'ai souhaité classer les idées entre ce que j'ai appelé le minimum vital du lien au travail. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire partout, dans n'importe quel contexte. Ensuite, tu as les petites actions qui rentrent dans le quotidien. Ensuite, tu as les actions un peu plus impliquantes. Et après, les actions pour le manager. Donc, c'est important, je pense, mettre un petit peu de méthode et effectivement d'y aller par étapes. Avoir quelqu'un à qui partager un problème au bureau, c'est pour moi le niveau ultime du lien, si tu veux. Donc effectivement, quand on a une difficulté, d'ailleurs ça fait partie des questions dans le diagnostic, c'est est-ce que tu as quelqu'un à qui parler quand tu as un problème ? Voilà, donc c'est comme déjeuner avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est hyper impliquant, tu vois. Donc il y a une gradation, pour moi, il y a une gradation vachement importante des actions et on est vraiment sur le long terme, hein. On ne va pas tout d'un coup révolutionner avec ces nouvelles méthodes. Et du coup, juste pour la petite anecdote, en fait, derrière le bouquin, moi, je lance aussi une application digitale qui va pousser toutes les actions dans le quotidien des salariés au travail. Eh ben, on est très vigilant à la gradation des petites missions qu'on va pousser en fonction de la culture de l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'on est plutôt très corporate, plutôt dans la culture de la discrétion ou une entreprise hyper fun, tu vois ? Voilà.
Donc, t'es un peu dans la démarche du premier petit pas, c'est-à-dire que ou du nudge, c'est une petite action additionnée à une autre va faire avancer beaucoup plus grandement les choses.
Exactement. Tu vois, par exemple, si tu prends le sujet de la reconnaissance, qui est quand même un des principaux piliers pour créer du lien, et puis c'est une attente très forte en entreprise. Le premier levier, ça va être d'encourager un collègue qui a vécu, je te parle même pas de tes équipes quand t'es manager, mais d'encourager un collègue qui vient de délivrer un super projet. Alors le premier niveau, c'est de dire bah super, bravo ce que t'as fait. Et encore, dire bravo à un collègue, c'est pas partout, tu vois. Donc ensuite, t'as un autre levier, c'est aller questionner des collègues que tu ne questionnes jamais pour qu'ils t'aident ou qu'ils apportent des éléments pour résoudre tes problèmes. Parce que poser des questions à quelqu'un en lui disant « qu'est-ce que tu en penses ?», c'est un levier aussi de reconnaissance. Après, tu peux dire pourquoi pas aller même jusqu'à complimenter ton boss. Enfin, tu vois, c'est aussi un levier de reconnaissance. Lui aussi, il se démène et lui aussi en quête de reconnaissance. Répondre aux mails de collègues ou de groupes de projets, c'est un levier de reconnaissance. Après, tu as des choses beaucoup plus poussées. Tout ce qui est « vie ma vie », « réunion de feedback », réunions, tu sais, il y a beaucoup de stand-up meetings où toutes les semaines chacun annonce sa bonne nouvelle de la semaine. Donc là, tu as des actions plus structurantes qui véhiculent de la reconnaissance. Jusque, moi j'ai vu un boss qui avait affiché sur son bureau, sur sa porte, vous êtes tous importants, tu vois. Alors là, tu arrives vraiment dans des styles d'entreprise un peu différents. T'en as qui ont des rituels de questionnement aussi. Pourquoi me parles-tu de ce sujet ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Après, t'as beaucoup de... Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'actions qui ont des niveaux d'implication très variés. T'as tout ce qui concerne le mentoring, entre le reverse mentoring, là, qui est très en vogue en ce moment, où des jeunes vont mentorer des quadras sur le digital, par exemple. Donc, tu vois, quand tu prends un sujet comme la reconnaissance, tu as un niveau de gradation. Il y a des entreprises, par exemple, qui ont, euh, qui ont créé un petit groupe de musique et laissé les salariés qui ont enregistré la musique d'attente du standard. Tu vois, bah c'est des petites choses, t'as des petites choses rigolotes, mais n'empêche, ça crée le sentiment d'appartenance. Ou t'en as d'autres qui ont développé des projets d'écriture collective où tous ensemble, ils ont écrit ce qu'ils ressentaient de la culture de l'entreprise, etc. Donc voilà, t'as plein de choses. T'en as qui redécorent l'ascenseur à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle. Donc tu vois, rien que sur ce levier de la reconnaissance, il y en a 12 comme ça, il y en a pour tous les styles d'entreprise et tous les goûts.
Comment tu inscris ton activité dans cette tendance des Chief Happiness Officer et du bonheur au travail ?
Ben en fait, moi, je parle pas de bonheur au travail parce que humblement, j'ai juste recensé des actions qui créent du lien, tu vois. Et je me sens pas du tout de... Je n'ai pas aujourd'hui d'expertise sur... Enfin, tu vois, pour moi, c'est tellement fort, le sujet du bonheur. Il y a tellement de points qui impactent ton bonheur. Donc, j'ai une approche beaucoup plus pragmatique en disant bah déjà comment est-ce qu'on peut donner du sentiment d'appartenance. Alors après, si ça amène du bonheur, c'est très bien. Voilà, il est certain que toute cette communauté d'experts ou de salariés qui sont Chief Happiness Officer ou de réseaux portent quelque chose qu'on a en commun, tu vois, qui est la volonté d'un monde meilleur. Mais pas une seule fois dans mon discours ou quoi que ce soit, je parle de bonheur parce que je me sens pas du tout apte à prétendre apporter quelque chose dans ce domaine-là. Et moi, je vais déjà créer du lien et voilà. Et tant mieux si ça amène du bonheur.
J'ai vu dans ton livre qu'il y avait la fête de la défaite. La fête de la défaite?
Bah, si tu veux, au lieu de planquer les erreurs en disant comme un enfant qui a fait une bêtise et qui a peur de se faire gronder par la maîtresse, il y a des sociétés qui célèbrent les défaites en disant mais c'est normal de faire des erreurs et on va rebondir pour apprendre tout ça. En fait, une erreur, c'est une occasion d'apprentissage. Donc, il y en a même qui sabrent le champagne. Donc là, c'est vrai que, notamment parce que dans l'aviation, quand tu planques une erreur, ça peut quand même être très grave. Et au contraire, quand tu partages ton erreur, eh ben, c'est bon pour la sécurité de tout ton écosystème. Voilà.
Eh bien, cela tombe très bien puisque le podcast Moodstep célèbre les erreurs avec la première question du questionnaire qui est commun à toutes les interviews. Quelle est ta meilleure erreur ou en tout cas l'erreur qui t'a fait le plus progresser ?
Alors, moi, j'ai fait plein d'erreurs et c'est notamment le béaba de l'entrepreneur, c'est de faire plein d'erreurs. Donc, avant de t'expliquer juste un exemple, mais j'ai testé plein de trucs qui n'ont pas marché. J'ai testé des offres, j'ai testé des façons de faire, j'ai testé des marchés. Donc, faire des erreurs, j'en fais tous les jours et je trouve que c'est ça qui me fait avancer. Tu vois, j'ai une approche très pragmatique, je teste, ça ne marche pas, je corrige, j'apprends. Bon. Et pour revenir, en fait, deux fois dans ma vie, j'ai fait des erreurs de personnes, c'est-à-dire je me suis trompée dans ou bien ce qu'on me demandait ou bien qui étaient les personnes, est-ce qu'il pouvait y avoir de la confiance, comment est-ce qu'on allait fonctionner ensemble. Et c'est vrai que deux fois ça m'est arrivé de faire vraiment des grosses erreurs donc en termes justement de relationnel qui ont eu des impacts très difficiles pour moi. Et dans les deux cas, puisque j'ai ce côté entrepreneur très pragmatique, j'ai décortiqué les situations, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a pu en arriver là. J'ai même parfois été coachée sur ces sujets-là en me disant mais comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Et pour être très concret, en fait, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai tellement décortiqué cette situation relationnelle que c'est ça qui m'a donné envie de partir dans ce sujet pour justement créer du lien et faire en sorte que les erreurs relationnelles ne se reproduisent le moins possible, en tout cas.
Et quelles ont été les clés ? Qu'est-ce que tu as compris de tes erreurs relationnelles, justement ?
Eh bien justement, qu'en fait, l'autre, on ne connaît pas l'autre, finalement, et que tant qu'on ne parvient pas à créer du lien, les discussions qu'on peut avoir professionnelles... ne suffisent pas, en fait. C'est important d'aller connaître la personne d'aller l'écouter vraiment avec beaucoup d'humilité et de comprendre ses objectifs, ses façons de fonctionner, et d'aller aussi farfouiller au fond de soi pour se connaître également, savoir pourquoi on réagit comme ça à telle situation. Voilà, donc il y a, alors du coup, moi j'ai été vraiment coachée sur cette situation parce qu'elle m'était vraiment inconfortable. Et la clé, oui, c'est de se connaître et d'aller à la découverte de l'autre. Et c'est pour ça que créer du lien fluidifie les relations professionnelles et donc le travail. C'est que du coup, on comprend mieux comment l'autre fonctionne et donc on est beaucoup plus efficace. Voilà.
Alors, deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui t'a particulièrement marqué dans ta vie personnelle ou professionnelle ?
Alors, j'ai testé plein de choses, moi, parce que ça m'intéresse. J'ai fait notamment beaucoup de vitose. J'ai un peu tenté la méditation, j'ai aussi l'acupuncture. J'ai tenté plein de techniques. Et puis, sans compter que dans le bouquin, on teste beaucoup de bonnes pratiques et j'en ai testé pas mal. Et en fait, j'avoue que quand j'ai eu dans ma vie une situation ou une impasse dont j'avais vraiment du mal à m'en sortir, moi, je trouve que rien ne vaut un bon psy pour aller quand même creuser un peu plus loin. Voilà.
Donc, la psychologie.
Voilà.
Quelle est, selon toi, la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
Alors, sans surprise peut-être, moi, je pense qu'un manager, c'est avant tout un animateur d'équipe. Donc, c'est quelqu'un qui sait créer du lien pour créer de l'engagement, de l'élan et ensuite aller emmener ses équipes là où il doit les emmener. Mais pour moi, c'est vraiment la base avant même de parler de son expertise. C'est vraiment sa qualité d'animation et de créateur d'élan.
Non, c'est bien, c'est cohérent. On dira. quel livre ? Est-ce qu'il y a... je sais que tu as compilé 80 ouvrages, là. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot ou est-ce que tu en as un autre que tu aimerais conseiller à la lecture ?
Moi, j'aimerais bien conseiller le livre « Moteur d'engagement
». Ah non, alors, tu triches, il ne faut pas exagérer. Hein.
J'ai beaucoup aimé le livre « Fiche philosophie ». Je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est « Fiche philosophie », c'est un livre qui date de 2009. Donc dans la collection « Un monde différent », qui explique en fait comment illuminer la journée des autres au travail. Enfin, même comment illuminer ta journée au travail. Et donc, ça part de l'expérience d'une poissonnerie en fait qui illumine le quotidien de
ah
de,
mais non mais fiche clients. Comme poisson c'est pas des fiches ah oui je connais
oui,
c'est
voilà.
Oui oui très bien je connais très bien
voilà
et c'est vrai que eux ils ont développé toute une philosophie qui part maintenant est appliquée d'ailleurs par des consultants en entreprise partout dans le monde
voilà
ah, ok de fiche philosophie très bien. Et dernière question, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ?
Alors, moi, j'aime beaucoup cette phrase de Sœur Emmanuel, cette expression qui disait beaucoup « Yalla ». Donc, « Yalla » qui veut dire « Bon, ben, allez, on y va, quoi, ça y est, c'est parti ». Donc, ça représente vraiment mon état d'esprit.
Eh bien, merci beaucoup, Alexia, pour ce voyage qu'on a fait, parce que tu nous as embarqués dans ta quête. Comment on peut te contacter aujourd'hui ? Où est-ce qu'on te retrouve ?
Alors, j'ai créé une société qui s'appelle la WeBox, LAWEBOX, qui porte à la fois le livre Moteur d'engagement, également l'application digitale qui sort derrière. Et donc, j'ai un mail, alexia@lawebox.com.
La oui comme nous, tu...
Exactement, voilà.
Pas comme week-end, oui, c'est le week-end.
Non, comme nous, W-E. Okay.
Mais ce n'est pas une box en soi, c'est vraiment le nom de ta société.
Oui, alors l'idée, c'était de faire ressortir l'idée qu'on est une espèce de boîte à trésors, en fait. Voilà, on a un ensemble de choses et que ce sont... l'idée, c'était d'illustrer le côté très pragmatique des actions qu'on promeut pour vraiment se démarquer d'une approche plus conseil.
Et puis avant de se dire au revoir, est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets ? Qu'est-ce que tu prépares pour la suite ?
Alors moi, j'ai vraiment envie que la méthode de moteur d'engagement soit diffusée très largement pour vraiment participer à un monde meilleur. Donc voilà, j'espère, c'est pour ça d'ailleurs, là pendant le lancement du livre, je l'ai proposé à 1 €, tu vois, pendant un mois. Parce que j'ai vraiment, le but n'est pas que le livre soit rentable, le but est vraiment de diffuser très largement les idées et que d'avoir un impact positif sur la société.
Donc il est 1€ sur Kindle, donc on le trouve sur Amazon, c'est ça ?
Exactement, sur Amazon, sur Fnac.com également, en digital, à 1€ jusqu'au 20 mars.
Bon, bah précipitez-vous.
Voilà.
Ah oui, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps là.
Oui.
Dépêchez-vous, vous avez une semaine pour aller télécharger. Bah, sauf que les podcasts s'écoutent des fois un an après. Donc pour vous, c'est trop tard, achetez le livre qui sera, j'espère...
toujours sur Amazon.
Ouais, toujours sur Amazon, ouais, y a pas de raison. Bah, merci beaucoup Alexia, bah, je te souhaite de pouvoir changer, de pouvoir faire de ce monde un monde meilleur. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas.
Merci Johanna, merci, tu m'as beaucoup inspirée également. Et bonne continuation pour Moodstep et toutes tes actions.
Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Et oui, en ce moment, c'est intense, c'est toutes les semaines. J'avais voulu... prendre un peu plus de temps, le faire tous les 15 jours, mais je n'y arrive pas, j'ai un tel plaisir à faire ce podcast. Donc la semaine prochaine, on va retrouver Jérôme, on va parler de comment manager le changement. Vous retrouvez ce podcast, bien sûr, sur iTunes, je ne sais pas où vous l'écoutez, vous, mais il y a iTunes, SoundCloud, le blog Moodstep, je diffuse sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter... D'ailleurs, si vous avez quelques minutes, si vous pouviez aller noter ce podcast sur iTunes, ça aidera à diffuser les idées de tous les gens qui passent par ici et que je trouve formidables. Oui, je les trouve formidables et c'est pour ça que j'ai du plaisir à faire tout ça. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve mercredi prochain.